Swingtime 2018. Swing Time sur Swing FM 101.2, la radio du Hot Club de Limoges, est une émission préparée et présentée aujourd'hui et pour la troisième fois par Jacques Canero et Dominique Gouguet. Bonjour Jacques, bonjour Dominique.
Bonjour Alain.
Eh bien, on était impatients de ce troisième volet sur l'expressivité et l'évocation dans le jazz.
Eh bien oui Alain, on retrouve donc Jacques Canero pour ce dernier opus d'une série de trois émissions consacrées au thème, tu l'as dit, jazz, de l'expressivité à l'évocation. Nous avons conclu l'émission de la semaine passée par un disque de la grande formation de Duke Ellington. Nous commençons celle-ci par une autre grande formation, celle de Count Basie en 1960 pour le label Roulette. Romping at the Reno.
Je retrouve ce soir avec Dominique Gouguet les auditeurs de Swing FM pour le troisième et dernier volet de notre série Jazz, de l'expressivité à l'évocation. C'est l'orchestre de Count Basie que vous venez d'entendre dans une composition, un arrangement de Benny Carter avec les solistes Frank Foster au ténor et Thad Jones à la trompette. La semaine dernière, nous nous étions intéressés à quelques types d'évocations que l'expressivité instrumentale et jazzmen pouvaient susciter. Cette semaine, nous allons explorer, modestement, la dimension impressionniste de la musique de jazz. Ce sera d'abord par l'intermédiaire de créateurs parlant de leurs propres œuvres. Les amateurs de jazz connaissent tous la composition du pianiste Willie Smith Le Lion, Echoes of Spring, Écho du printemps, qu'il jouait à chacun de ses concerts, ou presque. Sur les circonstances de l'écriture de ce thème, voici ce que raconte Willie Smith dans son autobiographie « Music on my mind ». J'étais assis sur un banc en face du City College et je me relaxais, m'imprégnant de l'atmosphère du lieu. Une ligne mélodique se mit à traverser mon esprit. Plus tard, ce matin-là, j'étais assis au piano et m'amusais à moduler un air tout en observant dehors les nuages et les arbres. Ce fut alors que j'élaborai l'entière composition. Fin de citation. Willie Smith, en faisant d'une rêverie dans la nature la source de son inspiration, laisse présager l'écriture d'une mélodie paisible et légère. À vous d'en juger avec ce Echoes of Spring de 1957 pour le label Dot Records. Voici à présent Duke Ellington parlant de sa composition Harlem Airshaft. Ici, le créateur puise son inspiration dans le quartier new-yorkais de Harlem et détaille les découvertes que lui offrent les airshafts des immeubles. Qu'est-ce qu'un airshaft ? Très banalement, un conduit d'aération. Écoutons Ellington. Tant de choses passent par un conduit d'aération de Harlem. On entend des querelles, on sent la nourriture. On entend des potins intimes flotter au ras du sol. On entend la radio. Un conduit d'aération est un gigantesque haut-parleur. On entend les chiens du gardien. On sent le café. Merveilleux, cette odeur-là. Un conduit d'aération est porteur de tous les contrastes. Un type est en train de faire cuire du poisson séché et du riz. Un autre type s'est procuré une grande grosse dinde. On entend des gens prier, se battre, ronfler. J'ai essayé de mettre tout ça dans Harlem Airshaft. Fin de citation. Il serait bien sûr naïf d'écouter cette composition en guettant une transposition musicale de chaque élément décrit par le Duke. Ce que perçoit l'auditeur, c'est un arrangement dynamique, progressant par vagues, où vient s'insérer, ça et là, comme par surprise, la trompette fantasque de Clark Terry. Harlem Airshaft, dans la version de 1955 pour Capitol. Nous avons la chance, depuis 2016, de pouvoir lire en français l'autobiographie d'Ellington, Music is my mistress, publiée aux éditions Slatkin.
Oui Jacques, il s'agit là d'une lecture indispensable et passionnante qu'on ne peut que recommander vivement à nos auditeurs.
Oui, on y apprend par exemple que le duc écrivit vers la fin de sa vie une partition de ballet pour le chorégraphe Alvin Ailey. Le compositeur parle abondamment de ce ballet intitulé « The River » et en détaille les 12 tableaux évoquant le parcours tumultueux d'un fleuve, de sa source à son embouchure, qu'il compare au parcours de la vie humaine. Voici ce qu'il écrit du 8e tableau auquel il donne le même titre, « The River », qu'à l'ensemble de l'œuvre. Le fleuve, qui galope avec entrain et qui, abandonnant plusieurs affluents, s'élargit, laisse peu à peu son adolescence derrière lui. Gagnant en maturité et même en noblesse, il se transforme en une vague majestueuse, d'une fraîcheur saisissante, et progresse alors à une allure autoritaire et rythmée. Fin de citation. Ce projet est illustré par une orchestration de plus en plus ample et ferme, écrite essentiellement pour les saxos et les trombones, une coulée sans le moindre soliste, mais avec fréquemment la mise en valeur de la contrebasse de Joe Benjamin. The River, 1970, publié par Saja Records. Thank you. Ellington a parfois pris comme sujet d'inspiration une personnalité du monde artistique qu'il admirait. C'est ainsi qu'il conçut avec son alter ego Billy Strayhorn un portrait musical de la chanteuse Ella Fitzgerald en 4 mouvements. Voici ce qu'il en dit dans son autobiographie « Music is my mistress ». Pour notre portrait d'Ella Fitzgerald, nous laissons notre imagination feuilleter son album de famille. On y voit beaucoup de gens, des gens beaux, des gens forts, vigoureux, solides, des gens et des événements pleins de dignité, de distinction, et tous avec le tempo. En tournant les pages, nous remarquons qu'Ella est d'ascendance royale, et dans le premier mouvement, « Royal Ancestry », nous tentons de capter et de restituer un peu de la majesté de sa majesté. Fin de citation. Au cœur de l'arrangement opulent de ce Royal Ancestry, vous entendrez Paul Gonsalves dans un solo de ténor construit à la manière d'un chant délicat aux lignes sinueuses. Royal Ancestry, 1957 pour la marque Verve. Sans confidence du créateur, il est possible de percevoir leurs projets dans les titres de leurs compositions. Ainsi, certains intitulés suggèrent l'existence de correspondances mystérieuses entre les sens. Les sons ne pourraient-ils pas traduire, par exemple, des sensations olfactives ? Un artiste de génie comme Django Reinhardt composa un thème raffiné qu'il nomma « Parfum ». Dans la version originale de 1937 pour la voix de son maître, on apprécierait la délicatesse de la mélodie. Le retour périodique et discret de ce thème quasi évanescent, le travail de la note avec de subtiles inflexions. Parfum. Thank you. Quand on parle de correspondance entre les sens, on songe au poème célèbre de Baudelaire qui proclame que dans l'univers, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Partageant cette conviction, Duke Ellington a souvent fait un usage pictural des sons. Il composa même en 1968 une suite de gars en hommage au peintre emblématique de l'impressionnisme. Dans le foisonnement de l'œuvre ellingtonienne, on ne cesse de rencontrer des titres renvoyant à la couleur. Azur, Sepia Panorama, On a Turquoise Cloud, Blue Cellophane, Green Apple, Red Roses for a Blue Lady, Violet Blue, etc. Parmi ces titres qui valurent à Ellington l'appellation de coloriste, l'un des plus fréquents du répertoire fut Mood Indigo, dont il existe plus de 180 enregistrements, tant le compositeur aimait insérer ce thème dans ses multiples medleys. En français, on dit des pot-pourris. Nous allons écouter la version originale de Mood Indigo, interprétée par un septet constitué d'une rythmique complète et de trois instruments avant. Le génie d'Ellington s'affirme dès l'exposé à trois voix, où fusionne une trompette avec sourdine dans le registre médium, une clarinette s'exprimant dans le grave et un trombone muni d'une sourdine jouant dans un registre plus aigu qu'on ne l'attendrait sur cet instrument. Cette combinaison audacieuse de sonorités est restée une référence dans l'histoire du jazz. Après l'exposé, chacun des trois musiciens prend librement la parole, mais sans s'écarter de la couleur initiale. Arthur Wetzel à la trompette, Barney Bigard à la clarinette, Trick et Sam Nanton au trombone. Mood Indigo, 1930, pour le label Brunswick. Peut-être cette alliance insolite de sonorités confère-t-elle à Mood Indigo une tonalité mélancolique. C'est là une impression personnelle, mais c'est après tout l'un des intérêts de la musique que de susciter des émotions. C'est pourquoi, pour clore cette série d'émissions, nous prolongerons la thématique de l'évocation par la notion très subjective de climat d'ambiance, de mood, pour reprendre l'appellation d'Ellington. Pour cela, nous entendrons quatre interprétations foncièrement différentes par les moyens d'expressivité mis en jeu. Le premier titre, sur tempo rapide, fait naître un sentiment d'euphorie. L'orchestre de Kidori, s'exprimant avec l'accent propre à la Nouvelle-Orléans, nous convie, comme lors d'une parade de rue, à la fête, à la bonne humeur, au plaisir du partage. Ce groupement est, au pianiste près, celui qui vint à Limoges à l'automne 1956 pour son unique visite. Alphine Alcorn à la trompette, Phil Gomez à la clarinette, Kidori au trombone, Wellman Broad à la basse, Minor Hall à la batterie, mais ici Lionel Rison au piano. Ce sont des collectifs puissantes et des solos individuels chaleureux qui se succèdent dans ce disque au tonus communicatif à The Jazz Band Ball 1956 pour le label Good Time Jazz. Le second titre suscite l'émerveillement. Le pianiste Erlines nous entraîne dans un déferlement de notes sur tempo ultra vif. C'est un jaillissement continu, fruit d'une imagination sans limite, exécuté avec une précision absolue et des trouvailles stupéfiantes telles que des traits vertigineux ou des brisures inattendues. Voici Earl Fatherhines dans Piano Man 1956 pour le label Fantasy. Troisième titre crée plutôt un effet d'ensorcellement. Il a pour auteur-compositeur le saxophoniste ténor Guy Lafitte, magnifique musicien qui joua fréquemment à Limoges et propose ici un thème en tempo lent au titre énigmatique, Timou. Nous sommes ici dans l'ambiance intimiste d'une ballade tendre, délicate, jouée avec une émotion à fleur de peau, sans la moindre trace de mièvrerie. Et si, en prolongement de ce œuvre enregistré, nos auditeurs veulent connaître mieux Guy Lafitte, nous leur suggérons la lecture de son autobiographie, Comme si c'était le printemps, qui s'ouvre à point nommé par ces mots, une mélodie se tord suavement. Voici Guy Lafitte dans Timou, 1977, enregistré pour Black and Blue, avec une belle partie d'orgue de Milt Buckner et Sam Woodyard à la batterie. Thank you. Le quatrième titre, qui mettra d'ailleurs un terme à cet ensemble d'émissions, sera confié au saxophoniste alto Johnny Hodges, l'un des solistes les plus éminents de la musique de jazz. Sur le thème bien connu de Sunny Side of the Street, chanson d'une célèbre comédie musicale des années 30, Hodges, à la tête d'un septet, impose un climat à la fois de sérénité et de détente. Si l'élégance domine dans les deux premiers chorus de cette invitation à la promenade sur le côté ensoleillé de la rue, le troisième chorus offre un décalage saisissant. Le soliste se fait tout à coup volubile et double le tempo, tandis que la rythmique maintient le tempo initial, un peu comme si cette flânerie à deux, tout en se prolongeant, prenait soudain une allure aérienne. Johnny Hodges dans On the Sunny Side of the Street, 1961 pour Pablo. Expressivité, évocation, impression, suggestion, climat, ces mots prononcés si fréquemment dans cette série de trois émissions disent assez la richesse de la musique de jazz. Quelle chance que cette radio qui la diffuse 24 heures sur 24 et contribue par la magie du web à la propager dans le monde entier. Avant de rendre l'antenne, je voudrais remercier de son invitation toute l'équipe de Swing FM, groupée autour de son président, Alain Réjoux. Et merci bien sûr à toi, Dominique, de m'avoir secondé au cours de ces trois émissions.
C'est nous qui te remercions chaleureusement, Jacques, pour tes commentaires si pertinents lors de ces trois captivantes émissions. Et je me fais le porte-parole de tous nos amis de Swing FM pour que tu nous concoctes de futures émissions sur l'antenne où tu seras toujours le bienvenu.
Bonsoir à tous.